Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui poursuit sa chevauchée fantastique dans les vastes et parfois hostiles plaines du western. Après un premier épisode consacré aux grands anciens, aux fondations de cet indéboulonnable monument de la culture américaine, place maintenant à la seconde vague, la relève, celle qui, encore aujourd'hui, est sans doute la mieux identifiée par les cinéphiles de notre génération. Je veux évidemment parler à la fois du western spaghetti, dont les couleurs furent portées haut par un certain Sergio Leone et dont la figure centrale n'est autre que ce bon vieux Clint Eastwood. Mais il ne faudrait pas perdre de vue ce qui, à la même époque, se passait du côté des réalisateurs américains, notamment chez un certain Sam Peckinpah. On va causer de tout ça avec un bon, une brute et un truand. Je vous laisserai deviner qui est qui. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné, second volet de notre spécial western et c'est parti.
George, je l'ai connu au temps du Texas, il était encore cow-boy.
Alors, par quel bout prendre cet instant de cinéma? On peut peut-être commencer par expliquer dans quel état était le western,
contexte,
sortir de,
ouais,
voilà, de la période classique qu'on a évoquée dans le précédent épisode.
Oui, tout à fait, puisque Hollywood s'étant un petit peu épuisé dans son combat contre les syndicats, au lendemain de la guerre, avec l'invasion de l'Italie, on avait quand même découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait Cinecittà, qui avait été construit par un certain Mussolini et qui était super cool pour faire des films, et beaucoup, beaucoup moins cher, les techniciens là-bas. D'où l'idée d'aller d'exporter pas mal de tournages.
Déjà la mondialisation.
Voilà. Et de fait, il y a un genre qui est né clairement de ça, qui a été le péplum américain des années 50, mais aussi les westerns, puisque pas très loin, aux yeux d'un américain, il y avait Almeria en Espagne. Où le gouvernement de Franco était très content d'accueillir ces chiens de capitalistes, où donc ont été reconstruits des villes westernes, pareil avec des techniciens qui coûtaient pas un rond, et ils étaient surtout formés en Italie, ce qui faisait qu'on avait aussi donc des équipes italiennes qui tournaient
en
Espagne. Et ces décors sont là, les mecs sont formés, on a des chefs opérateurs comme Mario Bava qui vont être formés par les Américains, etc. Et en gros, ils ont les moyens aussi de faire des films sans eux. et au départ, le western italien, il va naître tout simplement d'un opportunisme. Quoi. On a les décors, on a les costumes, on a tout ce qu'il faut sous la main et des gens qui sont formés. Donc allons-y gaiement. Mais ça va être très 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 mal pris par la critique de l'époque. Et il faut pas oublier que à l'origine, le terme western spaghetti est un terme qui se voulait
péjoratif. Stéphane, David.
Ouais, alors
Stéphane.
En toute honnêteté, je ne sais pas si historiquement on peut dire que Leone a fait le premier western spaghetti, mais le truc c'est que ce qui est intéressant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la critique lui a un peu tapé sur la gueule, c'est que, si ce n'est que les films ont été d'énormes succès dès le début, dès pour une poignée de dollars, c'est que en fait ils s'inscrivaient vraiment en faux. C'est-à-dire, entre guillemets, au western, il y avait une vraie logique. Déjà, la légende voudrait que Leone n'ait jamais foutu les pieds aux États-Unis avant de faire pour une poignée de dollars.
Ce qui serait quand même assez merveilleux.
Mais ce qui en dit long, en fait, sur l'approche aussi, de manière générale, du film, en fait. Ensuite, on sait tous que ça vient de Yojimbo, de Kurosawa, voilà, qui a à peine. Donc, c'est un remake officieux, hein, parce que c'est à peine quelques années de différence.
Et il avait d'ailleurs peut-être eu l'idée en voyant John Sturges faire les sept mercenaires à partir des sept samouraïs.
Très probablement, voilà. Et en fait, en se portant un petit peu à faux là-dedans, en fait, il a ce regard d'européen, on va dire, sur un genre cinématographique et une mythologie, et surtout, encore une fois, une aspect historique qu'il va renforcer au fur et à mesure de où il va avancer dans ces films-là, en fait. Parce que, évidemment, il y a pour une poignée de dollars, il y a déjà la trilogie en question, il y a pour une poignée de dollars et pour quelques heures de plus, et le bon la retour, mais déjà il rentre beaucoup plus dans les logiques historiques à partir de le bon la beauté le truand, je crois que c'est
Est-ce qu'on peut, peut rappeler que le premier est réalisé sous pseudonyme aussi? Parce que c'est l'époque où on essaie de faire croire que ce sont des films américains. Mmh. C'est des films d'exploitation qui sont faits, en gros, pour sortir et rapporter du fric vite fait. Et il y a l'idée de faire passer ça pour des films américains. Oui. Ça, c'est important.
Voilà. Et en allant chercher, bon là, en l'occurrence, on allait chercher une star américaine qui est Clint Eastwood, qui était une star de télé, en fait,
aux États-Unis à cette
époque-là. Ride. Il avait un second rôle pendant des années, il avait un second rôle dans cette série. Et il l'a fait, contre l'avis de son agent, en gros. Mais il a fini par se dire, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais me pointer là-bas, ce film, personne le verra, quoi. Oui. Et c'est ce qui a fait de lui une star mondiale, en fait. Voilà. Et ce qui est un petit peu aussi arrivé, alors même s'il était déjà un petit peu plus ancré dans le cinéma, ce qui est un petit peu arrivé aussi à Charles Bronson quelques années plus tard, quand il a fait une partie de sa carrière en Europe. Et notamment, donc, il était une fois dans l'Ouest avec Léon. Il y a aussi, alors stylistiquement parlant, il y a cette idée, quand je dis que ça s'inscrit vraiment en porte-à-faux au western classique, c'est qu'il y a cette idée en fait de faire péter les potards à 12, en fait, je sais pas comment dire, dans la façon d'imager les codes du western et de les réutiliser. Enfin, l'utilisation des gros plans, l'utilisation de la musique en fait de Morricone, l'idée en fait d'en faire quelque chose de totalement opératique et baroque. Il pouvait y avoir des exemples éventuellement, je pense, et ça vous me direz mieux que moi, Raph ou David, il pouvait y avoir des exemples en fait qui existaient déjà, on va dire, dans le cinéma classique, hein, des moments complètement furieux. Mais là, c'était poussé à un paroxysme sur quasiment tout le film, en fait. Oui.
Avec un avantage technique, en fait, qui est que le cinémascope était considéré comme trop cher pour ces films d'exploitation, parce que ça voulait dire une pellicule anamorphique, etc. Bref, une lentille anamorphique spéciale et tout. Et du coup, les Italiens avaient inventé ce système au rabais, qui était le techniscope, qui permettait de faire du cinémascope, mais sans anamorphose, avec deux perforations au lieu de quatre. Ce qui fait que l'image était de moins bonne qualité, mais on avait un long rectangle Mais le fait que ce soit pas anamorphique, ça permettait aussi d'avoir une profondeur de champ beaucoup plus importante qu'en cinémascope, parce qu'au cinémascope, quand tu changes de focale, ça se voit, en fait, ça fait une espèce de déformation à l'image, et là pas du tout. Et donc, ce que Stéphane raconte, qui est vrai, effectivement, de cette idée de pousser les potards à fond, elle était d'autant plus aidée par le fait qu'ils pouvaient se rapprocher des visages beaucoup plus près que ne pouvaient le faire les Américains à cette époque là
et après il y a une notion qui, pour moi, presque définirait aussi d'une certaine manière le western, et en tout cas c'est ma vision du western, elle est peut-être plus proche du spaghetti que du western classique dans l'absolu. C'est cette notion, il n'y a pas que l'idée que, par exemple, si tu veux, d'un seul coup, en fait, on voit des gueules cassées, des seconds couteaux beaucoup plus affirmés, beaucoup plus prononcés, des types qui ont plus de dents, des types qui ont un œil crevé, des types qui sont sales, qui puent le purin, etc. mais il y a cette notion, en fait, que, en fait, on va les confronter à quelque chose que moi j'estime être sublime, qui est, par exemple, la musique de Morricone, et vraiment d'avoir, en fait, quelque part, du coup, en tout cas en termes mythologiques, de créer à la fois le contraste entre le sublime et l'absolument répugnant, et de jouer, en fait, avec la logique cinématographique sur cet angle-là.
Ce qui, pour le coup, est inscrit dans l'ADN du cinéma italien.
Et du cinéma européen, en général, puisque ce que Perrine disait dans l'émission précédente, hein, quand elle disait que la mythologie en Europe, c'était la mythologie médiévale, en fait, d'une certaine façon, Léon, il ramène le médiéval dans le western, effectivement, entre les paysans qui puent de la gueule et la musique liturgique, religieuse par-dessus, quoi.
Complètement opératique, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que, par ailleurs, on est, du coup, dans les années 60, et c'est aussi en même temps un changement de société. Donc, ce qui a aussi fait un peu entrer le western américain en désuétude, c'est aussi qu'en même temps, c'est la révolution sexuelle, c'est la guerre du Vietnam, la contre-culture, le début du rock, plein de choses qui vont faire que, justement, il faut casser le mythe qui a été mis en place et qui va faire, mieux accepter cette redéfinition du genre par les Européens. J'ai noté quelques caractéristiques en fait qui permettent un petit peu de distinguer le western spaghetti et ce qu'il a engendré du western classique américain, bien qu'il faut garder toutes les réserves dont Rafik parlait dans le premier épisode de l'émission sur le fait que c'est que le western américain est pas si limpide que ça, oui. et que il est aussi très riche et complexe et qu'il y a un petit peu de tout. Dans les trucs très notables, c'est qu'il y a quasiment plus d'Indiens dans le western spaghetti, à une exception près qui confirme presque la règle, c'est Navajo Rojo de Sergio Corbucci. Et il y a une figure qui était relativement en retrait dans le western classique américain et qui devient quasiment incontournable dans le western spaghetti, c'est le chasseur de primes, qui est un personnage qui, de fait, est extrêmement ambivalent. C'est-à-dire que, finalement, le titre d'un des western spaghetti les plus connus, Le bon, la brute et le truand, dont tu parlais en intro, donne l'impression de définir des types oui. très, très spécifiques et très installés. Et le début du film dit qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand. Mais en fait, dans la réalité, qu'est-ce qui définit les personnages comme moralement bons ou mauvais est beaucoup plus complexe. Et notamment le personnage de Clint Eastwood est absolument pas, comment dire, dans la lignée, en tout cas, des personnages de John Wayne. C'est un quelqu'un qui est finalement beaucoup plus humain dans sa caractérisation, dans le sens où il a un mauvais côté. En fait, moralement, c'est difficile de dire que ce type-là, c'est un héros.
De toute façon, c'est dès le premier L'homme sans nom, dès le premier film, en fait, c'est un manipulateur.
Dès pour une poignée de dollars, il est là pour manipuler les gens. Ouais. Et il y a un autre aspect, effectivement, on a déjà parlé, c'est des films qui ont eu énormément de succès très tôt, à tel point qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, en particulier en France, ils peuvent avoir tendance à définir le western. C'est-à-dire qu'on peut penser...
Le plus gros succès du western en France,
c'était une fois dans l'Ouest.
L'un des plus gros succès français, sur le territoire français.
Près de 15 millions d'entrées, ce qui est extraordinaire, et qui est de loin le plus gros succès du western en France. Il y a uniquement justement Les Sept Mercenaires qui se hissent parmi les films à plus de 5-6 millions d'entrées. Il avait fait 7 millions d'entrées à l'époque. Et en fait, dès les premiers Sergio Leone, pour une poignée de dollars, c'est 4 millions d'entrées. Pour quelques dollars de plus, 4 millions d'entrées. Le Bon, la brute et le truand, 6 millions d'entrées. C'est des films qui ont été multi-rediffusés à la télévision, oui, etc. Et qui ont vraiment participé à installer dans l'imaginaire ce qu'est le western.
Envers et contre la critique aussi, il faut le rappeler, parce que ça a été évidemment, surtout avec des succès populaires comme ça, il ne faut pas oublier à quel point à la fin des années 60, début 70, il y a des horreurs qui ont été écrites sur ces films-là.
Stéphane. Je pense que il y a ça, mais il y a aussi, je pense qu'il y a l'idée encore une fois de ce que je disais, c'est-à-dire que dans l'absolu, un Leone, en fait, il va aussi lui-même non seulement déconstruire déjà à la base dans sa logique des choses le cinéma américain, le western américain, mais déconstruire son propre cinéma ensuite, puisque par exemple une anecdote célèbre, c'est qu'il voulait que Eastwood, Wallach et Lee Van Cleef reprennent leur rôle au tout début d'Était une fois dans l'Ouest, oui, en fait, pour se faire buter par le personnage de Bronson. Et ça, ça n'est pas arrivé parce que Eastwood a fait pardon. Enfin, en gros, non. Moi, parce que je pense que tu as cette idée que lui, il fonctionnait dans la pérennité, c'est-à-dire, et ça se voit dans son cinéma, et on en parlera peut-être parce qu'il a fait quand même beaucoup de western lui aussi. Mais que justement, Leone avait ce jeu, qui est un jeu d'ailleurs, en fait, qui est inscrit dans sa narration. Hein, c'est-à-dire que quand on parlait de retrouver des racines de la narration à l'européenne, c'est pour moi, en tout cas, c'est plus marquant chez Leone, en fait, de voir par exemple comment le récit picaresque est utilisé dans son cinéma, c'est-à-dire ce moment complètement ubuesque où d'un seul coup ils se retrouvent propulsés en pleine guerre civile alors qu'en fait on était en train de suivre leur histoire et que l'histoire, la grande histoire, les rattrape
d'un coup,
c'est un truc qui est complètement qui est pas amorcé quasiment dans Le Bon, la brute et le truand, et qui en fait te ramène à l'idée que on est dans cet univers là aussi, si tu veux, quoi. Et ça par exemple, il y a cette notion là et il y a l'autre notion que moi qui est bon, peut-être plus personnelle dans la logique des choses, mais il y a cette notion que cette époque là le temps en fait était différent. C'est-à-dire le passage du temps, l'idée du temps. Et en fait, j'ai l'impression que lui, même si c'est pour des raisons purement cinématographiques, en fait, il le pousse énormément. On en a parlé dans les précisions précédentes de La Prisonnière du désert, et le temps que ça prend à John Wayne finalement à retrouver,
oui, pour retrouver
la jeune fille. Et cette notion du temps, en fait, cette notion d'une époque où le temps fonctionnait différemment que notre époque actuelle, c'est quelque chose en fait qui est, je trouve, est très important dans le western, dans le sens où tout simplement quand tu réfléchis un tout petit peu à l'époque, la logique historique de l'époque, effectivement tu pouvais mourir comme un con, tu vois, ou te faire pendre en fait en te faisant attraper, et ta famille le saurait jamais parce que tu n'auras jamais reçu une lettre, etc., etc. Et toutes ces notions là, elles sont entre guillemets cinématographisées. Et le truc, c'est que dans Chez Léon, cette dilatation du temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'en fait, c'est ce qui, c'est ce jeu entre donc l'emploi de la musique, l'emploi d'un montage extrêmement dilué, pour d'un seul coup en fait te frapper d'un coup de fouet, d'un coup de feu, d'un truc qui rend encore la chose encore plus brutale en fait, finalement, au-delà encore une fois de ce qu'on voit à l'écran, quoi. C'est-à-dire,
il y a un autre aspect assez important par rapport à quelqu'un comme Léon, et même peut-être d'autres réalisateurs de western spaghetti, qui est l'aspect entre guillemets postmoderne. Et là, c'est même pas moi qui le dis, ce sont des sociologues qui ont considéré que c'était le premier cinéaste postmoderne, puisqu'il fonctionne par rapport à ces films fonctionnent aussi comme discours sur le cinéma. Il a toujours dit que le fait d'avoir choisi Henry Fonda pour Il était une fois dans l'Ouest était pour prendre à revers le spectateur dans son expérience de ce qu'est Henry Fonda au cinéma, en fait.
En l'utilisant littéralement comme il est, c'est-à-dire que l'anecdote veut que Fonda se soit pointé en fait en se mettant des lentilles noires, etc., pour masquer ses yeux, et en fait Léon lui a dit mais non, je veux tes yeux bleus, voilà.
La pureté du regard d'Henry Fonda pour désigner un truc absolument abominable, quoi, qui est le meurtre d'un enfant. Et il y a ça, il y a le fait aussi, je crois que c'était un des premiers qui a insisté pour qu'il y ait des making-of de ses films, etc. Et puis donc tout le fait de jouer avec les figures de style du western, pour, comme Stéphane le disait tout à l'heure, pousser les potards, c'est aussi montrer qu'on est en train de jouer dessus. Je parle, le public de l'époque, il réalise qu'il est en train de voir un film qui joue des codes. Et quelque part, Léon, c'est le Tarantino des années 60. Dans Le Bon, la Brute et le Truand, il s'amuse même à tirer un coup de canon sur son propre nom, quoi. Si tu veux, il y a vraiment un truc qui se met en place, et qui est au fond assez européen dans ce regard un peu biaisé. Et il y a d'autres choses spécifiquement européennes qui différencient ce western européen du western américain. C'est la religion. Il ne faut pas l'oublier, que les États-Unis sont un pays protestant. L'Italie est un pays catholique. Le western spaghetti est chargé de symboles catholiques dans tous les coins, que ce soit de Django qui porte littéralement sa croix, ou bon, La Brute et le Truand, donc, qu'on vient de citer, ou comment dire, Lee Van Cleef et Clint Eastwood sont quasiment l'ange l'ange de la vengeance et l'ange de la rédemption du personnage central. La politique. Le nombre incroyable de thèmes marxistes qui vont arriver débouler dans tous les coins, enfin tout ça fait que au bout d'un moment ils ont commencé par essayer de faire croire qu'ils faisaient des films américains en mettant des faux noms, etc., puis très vite ils se sont dit non mais assumons le truc jusqu'au bout, quoi.
Mais ce que tu dis c'est intéressant, parce qu'en fait on en a pas forcément parlé dans la première partie en soi, mais je pense qu'aussi le truc c'est que quand bien même en fait c'est un genre historique en soi, c'est-à-dire par l'idée de reconstitution, c'est un genre aussi qui permet de parler de notre époque à chaque fois en fait les traite, et l'idée en fait de que d'un seul coup tu as un tas de scénaristes italiens et de réalisateurs italiens qui se mettent à faire des films de gauche très très prononcés dans les années 60-70, ça en dit long sur l'époque, en fait, sur l'Italie de l'époque aussi, donc
ceux de droite vont faire les policiers des années 70,
et surtout le truc c'est que Seconde Guerre mondiale,
et puis avec les années de plomb en parallèle,
c'est ça. Donc le truc c'est que le western permet aussi ça, c'est-à-dire il permet de tout simplement de parler de notre temps en parlant en traitant l'autre temps, en fait, j'ai envie de dire. Mais ce que tu dis sur le postmodernisme, c'est effectivement vrai, mais c'est surtout que il ne pouvait pas en être autrement, puisque en fait quelqu'un comme Léon ne connaît même pas le pays en fait en soi. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs progressif en fait dans son cinéma, l'idée d'un moment donné d'inscrire vraiment l'histoire du pays dans ce qu'il y a à faire, y compris sans même aller jusque dans le western, y compris dans Il était une fois l'Amérique. En fait, voilà, c'est même si les films s'appellent comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que lui-même s'est autorisé d'un seul coup à rentrer dans ses logiques historiques et les traiter sous son propre angle à lui.
C'est vrai que ces films, enfin en tout cas les premiers westerns, sont des souvenirs cinématographiques en fait. Ouais.
C'est une relecture de cinéphile.
Parallèlement en fait au travail de Sergio Leone, qui a été une figure finalement tellement hégémonique dans l'imaginaire qu'il a presque éclipsé tout tous les autres, y compris parfois volontairement. Je voudrais parler un petit peu plus tard de Mon nom et personne, sur lequel voilà la manière dont Sergio Leone a imposé sa patte sur le film de Tonino Valéry. Est discutable, enfin en tout cas il faudrait un petit peu en parler. Il y a un autre Sergio à côté, Sergio Corbucci, qui lui en fait a récemment été remis en lumière notamment par Tarantino en faisant Django Unchained et en utilisant le thème de Django, la chanson reste en tête.
Chez nous, il y a quand même Dieu mec qui a beaucoup montré ça aussi dans les années 90.
Et dans The Hateful Eight, qui est une relecture du Grand Silence, quelque part.
Corbucci fait. Django, qui ensuite va en fait devenir un personnage mythique repris par d'autres cinéastes, décliné de différentes manières. Navarro Joe, dont je parlais tout à l'heure, qui suit le personnage d'un Indien. Et Le Grand Silence, effectivement, qui est...
Avec Jean-Louis Trintignant.
Avec Jean-Louis Trintignant, qui joue un chasseur de primes muet.
C'est un film magnifique.
Qui est un très beau film, Dans la neige. Donc c'est en ça qu'on peut faire le lien avec Les Huit Salopards. Ce sont des films qui, finalement, vont encore plus loin dans le crasseux et le postmoderne par rapport aux films de Sergio Leone, qui sont moins dans la dimension opératique. Enfin, je sais pas, Rafik, ce que tu voulais ajouter.
Qui fonctionne quasi en parallèle avec le cinéma, le Shambara japonais à l'époque.
Oui.
On a parlé des influences manifestes, etc. Mais au moment où on a Le Grand Silence, on a aussi Hideo Gosha qui fait Goyokin. On peut presque coller les deux films côte à côte, quoi. Puisque le Shambara étant le western japonais par excellence. Mais c'est marrant de voir que esthétiquement aussi, les deux genres se ressemblent à plus d'un titre, quoi.
Et puis parallèlement à tout ça, en fait, justement par opportunité, par les moyens de production, il y a une énorme production, disons, de western spaghetti de série B, avec des films qui aujourd'hui sont plus ou moins regardables et intéressants. Enfin, il y a énormément de choses et effectivement beaucoup de presque du cinéma d'exploitation qui va jouer sur l'illusion que ça vient des États-Unis, en fait, et notamment des acteurs comme Terence Hill et Bud Spencer, qui sont des Italiens. Terence Hill s'appelle Mario Girotti et Bud Spencer Carlo Pedersoli, et qui vont vraiment en fait
j'ai découvert ça à l'adolescence, j'étais tellement choqué, j'étais persuadé qu'ils étaient américains.
Il y a aussi Montgomery Wood qui est un acteur qui joue un personnage de Ringo dans plusieurs films, et qui est aussi un Italien qui s'appelle Giuliano Gemma. Tout ça, c'est vraiment une réappropriation du folklore américain et de la mythologie dont on a parlé dans la première partie, à des fins directement mercantiles pour faire un maximum de production et donner l'impression, presque l'illusion, d'avoir des suites parfois de films qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres.
C'est un truc qu'ils ont poussé jusque même dans les années 80 et 90. Ouais. Hein. Il y avait par exemple Evil Dead, ça s'appelle La Casa en Italie, et du coup en fait ils produisaient d'autres films qui s'appelaient Casa, et quand Evil Dead 2 arrivait, c'était La Casa 5, du coup je sais plus combien, parce que d'un seul coup en fait les mecs avaient poussé le... Et ça, c'est des problématiques de distribution, et puis c'est de l'entourloupette de prod,
de distrib, voilà, pour... et du coup il y a Mon nom et personne qui arrive en 1973, qui est presque, on parlait de postmodernisme, qui est une relecture déjà presque postmoderne du western spaghetti, c'est-à-dire que c'est un film qui est presque une parodie de western spaghetti, avec en même temps des idées de mise en scène assez géniales, un film qui est extrêmement bien composé, qui met aussi pour le coup plutôt en bonne posture Terence Hill, qui peut sortir un peu de certains des nanars qui ont pu faire sa carrière, et qui effectivement
j'aime pas trop comment tu parles de Terence Hill,
en fait. Non mais bon, faut appeler un chat un chat,
tout,
quoi.
Doux sur ce qu'on dit sur Terence Hill,
et en tout cas qui a fait l'objet de polémiques en fait sur la paternité du film, parce que Sergio Leone a voulu s'approprier une partie. Il a réalisé, je crois, la scène d'introduction et la scène de fin qui porte vraiment sa marque.
Sauf qu'apparemment, si t'écoutes Tonino Valéry, d'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout le cas. non plus. Donc, donc c'est là où c'est très, ça, ouais, c'est très,
ça, je
où c'est
sais
très
pas.
Particulier.
Il y a un très bon, je crois que c'est sur le Blu-ray ou le DVD du film. Il y a un long making-of qui essaye de débunker justement tout ça.
Ouais, et puis il y a le commentaire audio de Tonino Valéry où il part en vrille, pendant, où je mets à pleurer pendant le commentaire audio en disant mais mon Dieu, mon film, qu'est-ce qu'il lui a fait.
Et en fait, il y a au milieu du film des trucs qui peuvent être un peu des sortes de fautes de goût, des trucs, des sortes de gags complètement débiles avec le crachat dans le crachoir. Enfin, il y a des trucs un petit peu spéciaux.
C'est vrai qu'il y a un côté film de baffe là-dedans qui s'est perdu au milieu d'un grand film solennel qui en même temps
et quand même la musique d'Ennio Morricone
effectivement la musique d'Ennio Morricone et donc après alors ça peut-être Rafik veut parler un peu des compositeurs des compositeurs italiens.
Déjà les compositeurs sur le western en général, c'est intéressant de savoir que du côté des Américains, il a fallu attendre très tard pour qu'ils osent faire de la musique américaine sur les westerns. Puisque dans les années 30 et 40, c'était surtout de la musique entre guillemets, moi ce que j'appelle la musique viennoise, quoi. C'était Max Steiner et compagnie qui faisaient vraiment du symphonique pompier à l'européenne. Et ceux qui voulaient à tout prix faire de l'americana, ils ont mis du temps à s'imposer. Et effectivement, les grands espaces dont nous n'avons pas vraiment réussi à parler autant que je le voudrais, datent de 58. Et c'est peut-être la première fois où on entend ce que nous aujourd'hui on considère comme de la musique western, donc c'est très tardif et après ça va commencer avec les sept mercenaires, etc. Bon, on va avoir ces thèmes magnifiques et comment dire, très très enlevé. Sur la musique italienne, je suis moins spécialiste parce que je l'avoue avoir eu du mal avec les expérimentations d'Ennio Morricone écoutées hors film. Autant sur les films, je trouve ça merveilleux. Et à part moi, ça a vite tendance à me gonfler, en fait. Désolé.
C'est honteux, mais on peut peut-être préciser que c'était composé avant, en fait, le tournage aussi. Peut-être intéressant à dire parce que c'était peut-être pas forcément le cas sur les autres
westerns. Mais par rapport à ce dont on parlait sur la question du post-modernisme, c'est que c'est une musique souvent ricanante, en fait, souvent détachée de ce qu'elle raconte. Ça va jusqu'à l'excès, hein, quand il fait Ciratori de la Two Mules, avec carrément un bruit de un âne qui hurle pendant le truc. Bon, mais même le Bon, la Brute et le Truand, le fameux par exemple, l'idée de ce truc vient en fait d'un bruit de coyote qu'on a au tout début du film, en fait. Et donc, c'est ce cri de coyote qu'on entend dans la musique, puisque le coyote est censé être le personnage principal du film. L'humain est un coyote, pour Sergio Leone. Et donc, il y a vraiment une distance très intellectualisante dans la musique de Morricone, dans l'utilisation qui en est faite, et qui va justement l'autoriser aussi à dans ses excès, à faire ce truc un peu expérimental qui, au fond, fonctionne bien.
De la musique improvisée, du gros body improvisation et tout ça.
Voilà, tout à fait.
C'est sa formation d'origine.
En parfaite harmonie avec les 60s. Quoi.
Mais du coup, l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que David Leone qui avait ces morceaux-là et qui composait aussi sa mise en scène autour des morceaux, sur le plateau, mais en tout cas qui savait en fait plus ou moins comment il allait pouvoir rythmer le film au montage en utilisant la musique de. Parce qu'il n'y a pas que les cris de coyote ou les cris de Dan, t'as quand même.
Il y a
quand
une exagération.
Bien sûr, mais tout ce qui va avec, la logique du film, de toute façon, la logique du travail de Leone.
Il est alléluia. On y va dans tous les coins. Jamais un Américain, même à l'époque, n'aurait osé avoir des chœurs éthérés d'église de l'orgue carrément sur certaines séquences.
Après, il y a un truc qui est peut-être intéressant aussi de signaler, c'est que j'ai l'impression que plus on avançait dans l'âge du western, on va dire, et à cette époque-là, dans les années 60-70, plus on était décomplexé à l'idée de traiter certains sujets qui étaient déjà traités. Hein. Par exemple, mais là je vais penser, mais même historiquement, qui étaient plus proches, c'est-à-dire quand on disait que c'était pas encore tout à fait des films historiques à une certaine époque, les westerns, c'est que même si c'était si loin, si proche, dans la révolution mexicaine, c'est 1910-1920, donc les westerns existaient déjà à ce moment-là. Et là, en fait, d'un seul coup, un mec comme Leone qui fait une fois la révolution, c'est traité quand même de manière assez extensive dans La Horde Sauvage de Peckinpah. C'est des choses, même si je crois qu'Azan avait fait un film là-dessus, Zapata, dans les années 50, c'est quand même, si c'était traité, même si ça existait, j'ai l'impression qu'en fait, on est un peu plus parti dans cette idée de traiter effectivement encore plus autre chose que les cow-boys, et etc., etc., ou en tout cas la fin de l'ère des cowboys de la fin de l'ère de l'Ouest, qui est quand même un peu représenté aussi par, de l'autre côté, la révolution mexicaine et ce genre de choses, quoi.
Tu as ouvert la voie vers là où je voulais qu'on aille. Je voulais qu'on parle un peu de Peckinpah, justement, de ce qui se passait aux États-Unis, David.
Oui, ben en fait, Peckinpah, et d'ailleurs, c'est marrant par rapport à Mon nom est personne, c'est que ça fait la boucle non seulement avec le Western Spaghetti, mais aussi avec Peckinpah, parce qu'il va réemployer un certain nombre de choses qui ont été ouvertes et mises en place par Peckinpah, notamment dans le découpage et la manière d'accélérer énormément le rythme du montage, de passer par des ralentis, des choses comme ça. Et effectivement, Peckinpah est aussi en tout cas c'est énormément nourri du Western Spaghetti, c'est-à-dire que c'est un Américain qui va aller chercher un certain nombre de leçons dans l'approche du Western Spaghetti, notamment dans l'écriture des scénarios et le fait de chercher à déromantiser en fait le western et en fait à avoir quelque chose de très résigné, quoi, qui va dans la horde sauvage, qui va vraiment très très loin jusqu'au massacre pour le massacre, presque, et qui en fait nourrit donc un cinéma qui est à la fois extrêmement graphique au sens américain, extrêmement violent et qui redéfinit aussi effectivement sûrement un ressenti de là où se trouvait l'Amérique à cette époque.
Le cinéma de Peckinpah, c'est un homme de théâtre déjà à la base. Et ça, c'est absolument crucial pour comprendre d'où il vient. C'est que c'est un intellectuel et en même temps, c'est un type qui est traversé par des pulsions qu'on attribuerait plus volontiers justement à un cow-boy de l'Ouest. Et il est vraiment à cheval entre les deux. Mais c'est un type qui est capable de citer tout Brecht en une seule soirée, quoi. Il connaît son théâtre sur le bout des doigts, et ce théâtre de cette époque là, des années 40-50, un chouïa dépressif, on va dire. Mais qui va beaucoup, beaucoup le nourrir. Et il va se faire un nom sur une série qui s'appelle The Westerner, dont il va réaliser la plupart des épisodes. Mais dès le premier épisode, si vous revoyez aujourd'hui ce truc-là, il faut se dire que c'est passé à la télévision américaine dans les années 50, tu te dis juste... Waouh, quoi. Là, pour le coup, le caractère dépressif, il est le premier épisode, le héros vient dans une ville pour espérer reconquérir une femme qu'il a manqué dans sa vie, et elle l'envoie chier comme une merde. Enfin, et ça se passe la nuit dans une ville pourrie. Voilà, la femme de Peckinpah de l'époque, elle joue une espèce d'illuminée religieuse. C'est une noirceur totale. On a un épisode avec une ancienne gâchette de l'Ouest qui veut... En gros, arrêter, quoi, parce que c'est ça a été le tireur le plus rapide, parce qu'il a trop de morts sur la conscience. En fait, partout, il a buté tout le monde. Et partout où il va aujourd'hui, il y a toujours un jeune con qui veut le provoquer en duel, quoi. Ouais. Et le mec, à chaque fois, c'est genre, mais arrête, stop, arrête-toi, quoi. Et il passe son temps à tuer des jeunes gens, tu vois. Bon, mais chaque épisode te met 6 pieds sous terre, quoi. Et c'est comment elle s'appelle, c'est Maureen O'Hara qui va lui donner sa grande chance avec un western qui s'appelle New Mexico, que je recommande, qui est une vraie curiosité, d'abord parce que c'est déporté par une femme et pas n'importe laquelle, qui est une des grandes rousses du western, c'est l'actrice de John Ford par essence, quoi. Et il va aussi faire un western crépusculaire qui est Coup de feu dans la Sierra avec Joel McRae et Randolph Scott, les deux grandes figures du virilisme westernien des années 50, qui se trouve étaient aussi un petit peu pédés entre eux quand on les laissait. Non, mais voilà, il faut un petit peu rappeler aussi sur quelle base le Hollywood s'est constitué malgré les apparences, quoi. Et à travers ce film-là, Coup de feu dans la Sierra, il dit adieu. Ces deux acteurs disent adieu à toute l'image qu'ils ont portée dans la décennie précédente, et c'est déjà Peckinpah qui est derrière la caméra, et c'est déjà la Horde sauvage qui est effectivement un pinacle, quoi, un grand coup dans la gueule. Il a quand même été précédé par ces essais-là, quoi. Et je recommande vivement Coup de feu dans la Sierra. Mais effectivement, quand il fait la Horde sauvage, en fait, il se trouve qu'il a eu des échecs dans sa carrière, notamment Major Dundee, qui est un film qui a été complètement détruit, qui va retourner à la télévision un peu la queue entre les jambes. Il va faire un téléfilm sublime, mais assez difficile à voir, qui s'appelle Noon Wine avec Jason Robards et Olivia de Havilland, qui est un western, mais un western, on va dire, dramatique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup de, vraiment de coup de feu, quoi, qui est tellement intense et puissant que ça va convaincre les producteurs de leur donner une chance, en fait. Mmh. Et donc c'est là qu'il va vraiment se saisir de la Horde sauvage comme un acte de revanche, et il va exploser. Enfin, on peut pas mesurer aujourd'hui le traumatisme que ce film a provoqué chez toute une génération, parce que tout d'un coup, il y a eu des tas de canaux qui circulaient dans le cinéma et qui se sont croisés à cet endroit-là. On était en plein dans le cinéma européen d'auteur, avec ses effets de montage extrêmement élaborés et spécifiques. Donc, il y avait l'opératique à la Sergio Leone qui arrivait, etc. Il y avait une forme de néoclassicisme porté par le cinéma japonais de Kurosawa, Mizoguchi et compagnie, et ce film est vraiment à la croisée de tout, en fait,
avec un nihilisme qui est encore plus prononcé, parce que ça, enfin, c'est du début jusqu'à la fin, en fait, ils vont d'échec en échec,
et se termine sur un bain de sang absolument orgasmique et en même temps désespéré. Enfin, tout est en contraire, quoi, et ça a été un film somme, quoi, presque aussi important dans l'histoire du cinéma en termes de, comment on appelle ça, de film qui va donner des envies de cinéma à d'autres gens, quoi, d'influence, voilà, que Capulet, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti à peu près à la même époque.
Et d'ailleurs, en fait, Peckinpah, enfin, c'est intéressant parce que Coup de feu sur la Syrah et La Horde sauvage, en fait, justement, prennent en sandwich le western spaghetti. C'est-à-dire, Peckinpah est un peu le pain du sandwich du western spaghetti au début, à la fin des années 60. Oui. Et effectivement, entre ces deux films, il y a eu Sergio Leone, il y a eu Sergio Corbucci, il y a eu la production faramineuse dont on a parlé. Et moi, il y avait une autre voie de film qui sortent à ce moment-là. Alors, je sais pas si c'est un genre en soi, mais ils ont en commun d'être, il y a deux films à mon avis notables avec Robert Redford. D'abord, il y a
Butch Cassidy
et Sundance Kid de George Orwell, qui sort en 1969, et dont je crois qu'on en a parlé dans la première émission, on l'a évoqué un moment, qui est un film intéressant, parce qu'en fait je pense qu'il est en partie le fruit de d'une partie de l'Amérique contestataire de l'époque, et effectivement on suit deux marginaux qui sont des braqueurs hyper attachants qui vont si d'ailleurs vous jouez à Red Dead Redemption, ils sont poursuivis par des détectives de la Pinkerton, ces salopards qui empêchent de trouver son jardin. Voilà, c'est des détectives qui sont du coup payés un peu comme des mercenaires pour
quasiment
chasser.
Des tueurs à gages, on peut dire.
Et donc on suit ces personnages hyper attachants qui à un moment, et je trouve le film hyper réussi dans ce moment où on croit qu'ils vont pouvoir s'installer et vivre une vie finalement paisible, et qui débouche sur une fin vraiment, vraiment tragique, et qui est, c'est vraiment un archétype de la bromance avant l'heure, avant les films d'Apato et compagnie. Enfin, il y a la relation entre les deux personnages hyper intéressante. Et c'est un scénario de William Goldman qui vient de mourir.
Ouais. Et il y a une musique absolument sublime de Burt Bacharach.
Ouais. Et l'autre film avec Robert Redford, c'est complètement un autre sillon, c'est Jeremiah Johnson de Cinépolat, qui là va incarner plus, je dirais, et qui va commencer à ouvrir le post-western, c'est presque un western hippie de retour à la nature.
Pour le coup, les Indiens sont très présents.
Et ouais, et qui alors c'est aussi un film enneigé. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments qui ouvrent sur quelque chose de neuf.
Et qui s'inscrit encore une fois dans une tradition japonaise, parce qu'on a des Zuzala aussi avant Jeremiah Johnson. Donc c'est marrant de constater comment le Japon et le western se sont. Mais alors oui, une fois que Peckinpah est passé, a explosé tous les repères. Effectivement, il n'y a plus de retour possible.
Mais ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même un type comme Peckinpah qui a démontré, en fait, en faisant ces westerns-là, qu'il pouvait reprendre ces codes-là dans des films justement urbains, c'est-à-dire que par exemple, quand tu regardes Guet-apens, fondamentalement, c'est un western.
Mais surtout, il a ouvert la boîte de Pandore de la, ben, il faut le dire, de la représentation de la violence, pas seulement graphique, mais de toute forme de violence au cinéma, qui va aussi autoriser, dans ces années très très agitées, à aborder frontalement des sujets que jusque-là ont été mis de côté. Je pense à un film comme Soldat Bleu sur le génocide des Indiens, où il y a, moi j'ai le souvenir à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui je serais moins choqué, mais à l'époque de ma découverte, de m'être dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là, quoi, de voir le général Custer en train de se faire raser la barbe avec un gamin planté sur un pieu devant lui en train de se tortiller, enfin un truc absolument abominable, quoi. Fureur Apache de Robert Aldrich en 72, pareil, où on a des séquences de scalp assez dans ta gueule, quoi, où on préfère tuer les femmes plutôt que de les laisser aux Indiens. Enfin, dans les années 70, on part très très loin dans le nihilisme et la représentation, pour le coup, graphique de la violence qui historiquement a été là, et que on avait fait tout notre possible pendant 60 ans pour la laisser de côté. Le règlement de compte à Hockey Corral de John Ford, il est propre, il est clinique, quoi. Quand on arrive dans les 70s, ça ressemblait pas tout à fait à ça.
Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais oui, moi je pensais plus à l'idée que, enfin, j'étais parti un peu sur cette idée-là, en fait, que d'un seul coup, tous ces codes-là, en fait, se retrouvent infusés effectivement aussi dans l'aspect urbain. C'est-à-dire que quand on changeait de genre et qu'on faisait des polars ou qu'on faisait machin, d'un seul coup, il y avait beaucoup plus de notions westerniennes dans le cinéma de cette époque-là que voilà. C'est parce que effectivement, c'est de la même manière qu'on a dit que Sergio Leone était un cinéaste postmoderne, au sens où il a ingéré les codes du cinéma, il les a déconstruits, parce qu'en fait, si tu veux, n'a pas connu l'histoire de l'Amérique, ou n'a pas connu l'Amérique en tant que telle, pour en faire l'expérience et la retranscrire dans son cinéma. Ce n'est pas John Ford, donc. Mais en fait, tu as tout un tas de cinéastes, comme par exemple Carpenter ou tous ces gens-là, en fait, qui d'un seul coup récupèrent, se disent, bon, bah, Rio Bravo, je le prends et je fais assaut, en fait. Et d'un seul coup, malgré ça, il y a les codes du cinéma des westerns, en fait, qui se retrouvent un peu qui est là-dedans, dans l'aspect urbain, en fait, du récit, quoi. Et je ne sais pas si c'est exactement à ce moment-là que tout ça, ça a bifurqué, que c'est devenu quelque chose de totalement, que c'est devenu une narration totalement digérée dans ce cinéma. Il y aura probablement des exemples qui datent d'avant, en fait, où d'autres cinéastes ont appliqué ça ailleurs. Mais disons que j'ai l'impression que la popularité auprès du grand public, elle est arrivée à ce moment-là, et notamment voilà dans cette notion que, encore une fois, un Peckinpah ou même un Richard Fleischer ou des mecs comme ça, en fait, d'un seul coup, pouvaient récupérer en fait des codes du western et les traiter dans la modernité de l'époque, c'est-à-dire
Don Siegel aussi, hein, qui avait fait plein de westerns, enfin plusieurs westerns dans les années 50, et qui va réutiliser toutes ces figures dans
l'inspecteur Harry, parce que le truc, c'est que d'un seul coup, effectivement, il avait même fait l'injonction avec un shérif à New York, et voilà, quoi. Et du coup, bah, je pense que c'est ça qui fait que on rentre de plein pied dans la troisième partie, c'est ça que tu veux dire,
hein. Je dis qu'on commence à arriver vers la troisième partie. Et donc on va s'arrêter là pour cet épisode là merci à tous les trois, merci à Quentin à la technique. La suite et la fin donc de notre saga western, ce sera dans le prochain épisode. Merci aussi à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions. Et puis on vous dit à très vite.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Binge.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your $1 a month trial today at shopify.com/records.